Vous écoutez Carrière Talk, le podcast dédié 100% à propulser votre carrière au niveau supérieur. Dans cet épisode numéro 5, on parle de comment se lancer en freelance, c'est-à-dire comme consultant indépendant ou travailleur autonome, mais aussi des différences entre le travail permanent et le freelance, d'un point de vue financier, fiscal et lifestyle. Pour parler pratico-pratique de ce sujet, je reçois deux invités, un consultant indépendant en intelligence d'affaires, qui va vous parler de son retour d'expérience, et une avocate fiscaliste pour vous éclairer sur le côté administratif, ce qu'il faut savoir avant de se lancer d'un point de vue fiscal, incorporation, structure de compagnie, etc. etc. Alors, pour les introduire pour vous, Anne Edmaloui est avocate en droit des affaires et fiscaliste au sein du cabinet Amléa Avocat, qu'elle a fondé en 2015. Son objectif, être un brin de fraîcheur dans un domaine conservateur et permettre aux entrepreneurs de se lancer en affaires, protéger leurs actifs et maximiser leur avoir. Elle partage également son expertise en fiscalité via son blog réduireSesImpôts.ca. Et elle donne aussi régulièrement des conférences sur le démarrage d'entreprise et la planification fiscale afin de permettre aux entrepreneurs de pleinement tirer profit de leurs revenus. Mon deuxième invité, Amine Louahadj, et consultant indépendant en intelligence d'affaires qui a réalisé beaucoup de succès autour de lui depuis qu'il s'est incorporé. Aujourd'hui, il se positionne comme référence et expert dans son domaine et il offre aussi des formations en ligne en intelligence d'affaires. Alors sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bah, écoutez, aujourd'hui, je suis avec Anne Edmaloui et Amine Louahadj. Alors comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien,
ça va
et toi?
Bien.
Très bien, très bien. Bah, écoutez, merci d'avoir accepté déjà mon invitation pour ce podcast, pour cet épisode aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment que cet épisode, on parle de la question de comment se lancer en freelance quand on est consultant permanent. C'est une question qu'on me pose vraiment souvent. Alors, je voulais vraiment parler de ça d'une façon pratico-pratique. Vraiment, on va essayer de donner un step-by-step pour se lancer. Puis, on rappelle, Anne Edma est avocate fiscaliste. Donc, elle va pouvoir nous donner tous les conseils d'un point de vue fiscalité. Et Amine est consultant en intelligence d'affaires. En indépendant depuis quelques années, fait qu'il va nous donner tout son retour d'expérience. Donc, je pense que ça va être un super épisode. Alors, pour commencer, peut-être la première question que j'ai à poser pour pouvoir commencer ce sujet, c'est quoi les raisons qui t'ont poussé à te lancer en freelance comme consultant indépendant, Amine?
Bah, honnêtement, moi, ce qui m'a vraiment poussé à me lancer comme consultant indépendant, c'était plus l'orientation que je voulais avoir dans ma carrière, dans le sens où je voulais faire du projet et pouvoir choisir aussi mes projets. Quand tu es consultant, tu as la chance de pouvoir rencontrer plusieurs clients, voir leurs projets, voir si tu veux participer à leurs projets ou au développement de leur affaire. Et chose que tu ne peux pas forcément faire quand tu es permanent, dans le sens où les permanents sont souvent dans une compagnie pour un long moment. Et s'ils ont la chance de faire un projet, ils vont le faire. Sinon, c'est principalement de la maintenance et de l'évolution de ce qui est déjà en place. Donc, c'est principalement ça qui m'a poussé à aller vers la consultation.
Ok, donc c'est beaucoup plus la partie projet. Mais d'un point de vue comme liberté d'entreprendre, puis liberté de choisir aussi genre les projets, j'imagine aussi que c'est important.
Oh, oui, c'est surtout ça qui est important. C'est pouvoir choisir ses projets, sur quoi on veut travailler, pour quelle compagnie on veut travailler aussi. Personnellement, j'aime bien travailler chez des compagnies qui ont un but, un objectif noble et qui apportent de la valeur à la société plus que juste une valeur financière. Donc, ça permet de choisir la compagnie, les gestionnaires. Mettons que tu as plus de liberté dans ce sens-là que quand tu es permanent.
Mmh, exact. Puis, en fait, on parle toujours de freins parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent se lancer. Mais j'aimerais savoir c'est quoi les plus gros freins qui empêchent les professionnels à se lancer comme pigiste?
Il y a un premier truc auquel il faut faire vraiment attention, c'est est-ce qu'il y a vraiment un marché dans ton domaine pour devenir consultant? Il y a des marchés qui sont saturés où il y a tellement de gens qui travaillent dans ce domaine-là que ce n'est pas forcément intéressant de devenir consultant. Et des fois, c'est mieux de rester permanent. Par contre, si on prend le métier de TI, il y a énormément de mandats et c'est assez simple de devenir consultant. Ce qui freine la plupart des gens, je pense, à devenir consultant, c'est plus l'aspect « je ne suis pas prêt ». Les gens se disent tout le temps que je ne suis pas prêt, je vais attendre de devenir senior, je vais attendre d'avoir plus d'expérience, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Et au final, ils ne le font pas parce qu'à un certain âge, ils ont des enfants et ils pensent que être consultant, ça crée une précarité dans le sens où ton contrat, étant donné qu'il a une durée limitée, fait que tu as moins de stabilité qu'un permanent. Chose qui est pas forcément vrai, étant donné que même si tu es permanent, le préavis est plus ou moins le même, il est de 2 semaines et tu peux perdre ton emploi pareil. Donc autant prendre le risque de faire ce que tu aimes, être consultant.
Mais je crois que les idées reçues, c'est beaucoup plus qu'une fois que ton contrat va finir, si c'est un contrat, mettons, de 3 mois ou de 6 mois, ben à ce moment-là, tu vas galérer pour trouver le prochain, etc. Comment faire? Mais c'est une question de, voilà, de genre de durée de contrat qui dérange le plus, je pense, les gens, parce qu'ils se disent après 6 mois, par la suite, je vais me retrouver 6 mois à rouler les pouces. Donc, c'est ça un petit peu, je pense, le frein. Mais après, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que c'est sûr, c'est pas fait pour tout le monde. On n'est pas en train d'inviter tous les consultants de toute la planète de se convertir en consultant indépendant ou en pigiste. Mais c'est sûr que pour les gens qui veulent avoir cette indépendance, les gens qui veulent avoir un petit peu de liberté, les gens qui veulent gérer leur argent eux-mêmes, puis peut-être aussi gagner beaucoup plus d'argent, parce qu'il faut le dire que ça gagne mieux qu'en permanent, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant.
Ça gagne un peu mieux, mais je pense pas que la principale raison doit être autour de combien d'argent tu vas faire, parce que tu sais, c'est la différence est assez mince, dans le sens où si tu as un salaire de 100 000 et que tu passes consultant et tu fais je sais pas moi, 160 000, le 60 000 là, il n'est pas forcément dans ta poche parce qu'il y a plein, il y a des impôts en plus, il y a des comptables, il y a plein de choses à prendre en considération.
Puis en gros, si on parle d'avantages, les gros avantages que de se lancer en consultant, en pigiste.
Ok, bah, les gros avantages pour moi, c'est sûr que ça va être la possibilité de faire plusieurs choses en même temps, avoir plusieurs clients en même temps, choisir ses projets. Et c'est sûr que le fait de pouvoir apporter plus de valeur à ton client fait que tu as plus, ta rétribution est plus élevée. Donc intrinsèquement, tu fais plus d'argent aussi, ta rémunération est plus élevée.
Ben oui, mais je pense, moi personnellement, et je vais être honnête, je pense que c'est un point qui est super important de gagner plus sa vie, puis
Ah,
avoir plus
si
de
je pense.
liberté. Moi, honnêtement, genre, je parle de ça, j'aime parler de ça d'une façon vraiment ouverte d'esprit, puis avoir vraiment parler de l'argent d'une façon super ouverte, parce que je pense que c'est un des gros avantages, c'est un grand avantage quand même de se lancer en pigiste, parce que tu as un petit peu le contrôle sur tes finances. Bref, donc on va un petit peu fermer la parenthèse des avantages, inconvénients, les raisons, voilà, que pour se lancer comme pigiste. Puis là, si les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on a envie de leur donner un step by step, c'est-à-dire une étape par étape de comment se lancer. On a parlé un peu des freins, qu'est-ce qui empêche les gens et tout et tout. Puis là, je pense que c'est intéressant de donner c'est quoi le step by step. Amine ou Anne-Edma, vous en pensez quoi? C'est quoi les premières étapes à prendre en considération pour se lancer?
Bah, je peux commencer si tu es d'accord. En fait, moi, en tout cas, pour ma part, quand j'ai commencé, c'était assez simple. J'ai fait affaire avec un avocat et ils prennent tout en charge. Et ils te conseillent sur l'aspect légal, tout ce que tu dois faire, et ils font l'incorporation et tous les documents pour toi. Je trouve que c'est la meilleure façon de le faire, dans le sens où tu fais affaire avec un professionnel, même si tu dois le payer, et tu as tout prêt, mais il y en a beaucoup qui le font aussi tout seul. C'est vraiment pas compliqué de créer ta compagnie tout seul en ligne et ça se fait assez vite.
Ok, donc quand on parle de création de compagnie, toute la paperasse, c'est quoi un petit peu les étapes, Anedma, ce que tu en penses les différentes structures pour créer sa compagnie en
Ouais.
tant que consultant indépendant ou freelancer?
Absolument. Puis je vais ajouter juste une étape au-dessus parce qu'on parlait tout à l'heure des gens qui pourraient faire le saut pour des raisons strictement financières. Puis c'est vrai que de ma perspective, de ce que je vois pour les clients, ça représente un gain. Mais pour certains d'entre eux, ça vaut la peine de faire quand même son exercice. Si je quitte mon emploi parce que je crois que je vais faire plus d'argent, de quand même évaluer c'est quoi les opportunités que tu as en termes de revenus. Exemple, 660 000 versus 100 000. Mais de voir aussi c'est quoi ton coût de la vie. pour voir combien est-ce qu'il va réellement rester dans la compagnie. C'est un bon point, Camille disait, parfois, il t'en reste pas tant que ça. Et si la personne a fait ça juste pour avoir un gain monétaire, mais qu'en réalité, ton coût de la vie est voire plus élevé que lorsque tu étais employé, mais finalement, ce n'est pas une source de motivation qui est suffisante selon moi. Donc, ça vaut la peine de quand même valider juste avant de tout quitter, de voir que si c'était que pour l'argent et non pour la liberté également, que ça vaut la peine. Puis ensuite, ben, il viendrait la phase dont on vient de discuter, qui serait de constituer ta société par action. Effectivement, je remarque beaucoup de consultants qui le font de façon très autonome sur Internet. Par contre, ce qui est bien, c'est que lorsque tu le fais avec un professionnel ou avec nous, c'est qu'on va expliquer, on va venir aussi porter l'aspect sur, OK, tu as ta compagnie, tu as ton livre de minutes, c'est une chose, mais après, au niveau de tes responsabilités en tant que propriétaire d'entreprise, donc, maintenant, c'est à quelle fréquence est-ce que tu dois faire tes déclarations, comment fonctionne ta TPS-TVQ, comment est-ce que tu te rémunères, salaire ou dividende, c'est comment est-ce que tu maintiens ton entreprise, parce que les gens vont faire cette transition, mais vont garder leur réflexe d'employé. Donc, parfois, ils vont me dire, est-ce que je peux me payer aux 2 semaines? Est-ce que comme, vraiment, ils veulent comme garder cette même réalité qu'ils avaient et s'accrocher à cette forme de stabilité, mais en réalité, c'est comme un nouvel univers, tu peux faire ce que tu veux. Donc, je trouve que ça vaut la peine de consulter des professionnels pour vraiment comprendre ce que ça te permet maintenant de faire, puis aussi d'optimiser ta décision. Donc, ce serait ça que je dirais.
Est-ce que, d'un point, si je te pose la question sur les structures de compagnie, c'est quoi que tu comptes, enfin, c'est quoi les structures existantes, puis c'est quoi l'avantage et l'inconvénient des différentes structures?
Mais en fait, à la base, quand quelqu'un va se lancer, c'est on n'a pas beaucoup d'options. Hein. Soit quelqu'un se lance vraiment comme travailleur autonome, puis finalement, il a quitté son emploi. Il est travailleur autonome, donc à son compte, mais sans avoir de compagnie, ce que je vois moins souvent. Mais en fait, j'en ai vu un en décembre, mais ça m'a surpris. Donc, il était vraiment juste à son compte. Il avait son TPS-TVQ, mais il n'avait pas de compagnie en tant que tel. Donc, il collecte l'argent à son nom directement. Et l'autre option, finalement, c'est de vraiment t'incorporer. Donc, de créer une compagnie, donc 999 Inc., et d'avoir cette structure où tu as un intermédiaire, d'une certaine manière, tu as ta compagnie qui perçoit les revenus en ton nom, et toi, tu dois extraire les revenus vers toi et déterminer comment est-ce que tu souhaites te rémunérer. Donc, c'est pas mal les deux options.
Et sans ça, sur ça aussi, tu as les Canada Inc. et Québec Inc. qui sont différents selon ce que tu veux faire. Donc,
Mais après,
non, mais parce
ouais,
que je ne connais
vas-y.
pas forcément toute la différence, mais en gros, de ce qu'on m'a expliqué, c'est que Canada Inc., ça te permettait de facilement aller travailler ailleurs au Canada plutôt que juste au Québec. Comparativement à Québec Inc., ou si jamais tu devais aller ailleurs qu'au Québec, bah, fallait en créer une autre. C'était assez complexe.
Effectivement. Donc, finalement, si quelqu'un envisage peut-être de complètement déménager, c'est un exemple que j'ai eu en octobre récemment. Justement, un client qui, lui, a créé sa compagnie Québec Inc. À Montréal, ici, et il envisage d'aller prendre un contrat en Ontario et de déménager complètement, mais veut garder cette même compagnie. Donc, finalement, il faut comme que tu deviennes une Canadienne qui ensuite est établie en Ontario. Donc, si quelqu'un opte pour fédéral d'emblée, donc d'être une compagnie canadienne, et ensuite tu choisis ta province où tu vas. Donc, si tu souhaites déménager, tu ne fais que passer d'une province à l'autre, mais tu gardes toujours cette existence. C'est faisable de passer d'une Québec Inc. à une fédérale, mais il faut que tu demandes la permission au Québec, puis ensuite au fédéral. Donc, ça ajoute un peu de paperasse derrière ça.
Ok, parfait. Puis en fait, mettons la différence entre les deux structures d'un point de vue coût, ou bien si on part des avantages et inconvénients des deux structures, juste pour qu'on soit clair, c'est-à-dire si on doit choisir aujourd'hui, je sais que voilà, les deux sont valables pour les consultants, mais c'est quoi la structure la plus recommandée sur du long terme peut-être?
En fait, tu peux transitionner. Si la personne que j'ai rencontrée, exemple, qui est vraiment travailleur autonome, donc qui a opté pour l'entreprise individuelle, potentiellement que c'est parce que ça ne valait pas la peine ou elle n'allait pas soulever d'impôts en créant une compagnie. Donc, tu peux très bien commencer comme ça. Et c'est très facile de faire la transition. Tu ne fais que t'incorporer, puis au lieu de facturer à titre individuel, tu factures vers ta nouvelle entité. Donc, tu peux faire cette transition. C'est beaucoup moins cher pour quelqu'un de commencer comme travailleur autonome, mais franchement, j'en vois pas en fait de gens qui commencent comme travailleur autonome, mais c'est sûr qu'il y en a, mais j'en vois jamais. On dirait que leurs clients aussi demandent que tu sois une compagnie, c'est quoi ton numéro d'entreprise, c'est quoi ta TPS-TVQ. Donc, c'était vraiment un cas qui m'avait surpris, mais typiquement, les gens vont prendre l'incorporation. Autrement, travailleur autonome, c'est vraiment pas cher à commencer dans le sens que c'est également sur Internet que tu le fais. Pas besoin d'assistance juridique pour faire ça. Les frais du gouvernement sont très minimes. Versus l'incorporation, les frais du gouvernement sont un peu plus élevés, comme 345 $ environ. Après, il faut une comptabilité que pour la société par action. Donc, tu vas prendre un comptable pour faire ta déclaration de revenus corporative. Et ensuite, tu as toujours ta déclaration à titre individuel à produire. Donc, ça ajoute aussi ce volet annuel. C'est des frais comme récurrents qui viennent.
Exactement, c'est ça. Je pense qu'il y a la partie de comptabilité de la compagnie, de ton Inc., puis il y a l'autre partie comptabilité de toi-même en tant qu'un individu pour ton salaire. Donc, c'est la seule chose, je pense, qui se rajoute. Puis, bien évidemment, tous les coûts des comptables fois deux.
Exactement.
Donc, on a parlé un petit peu d'incorporation Inc. Ce qui est recommandé de plus, comme tu as dit, si on parle par exemple des cas des consultants TI, je sais que la plupart partent avec une structure Inc. parce que voilà, sur du long terme, puis avec tous les gros clients avec lesquels ils vont travailler dans le futur, ils vont demander un petit peu une structure Inc. Puis, si on prend par exemple un cas de figure pour expliquer un peu plus. Le gain d'un point de vue, le gain en taxes d'un point de vue fiscalité. Je ne sais pas si on peut prendre un exemple pour expliquer mieux, parce que moi, je sais qu'au genre, au début, quand on parlait de structure, etc., genre avant mon expérience en tant qu'entrepreneur, je ne comprenais absolument pas c'était quoi Inc. Je ne comprenais pas qu'il fallait déclarer deux revenus et puis faire la comptabilité de la compagnie, puis de moi-même. C'était vraiment des choses que j'ai. C'était vraiment extraterrestre pour moi. Encore plus, genre tout ce qui est salaire et tout ce qui est taxes, c'était une complexité que j'avais vraiment du mal à comprendre. Donc, ça serait bien si on explique, puis on illustre un peu plus le gain de taxes, puis on prend un petit exemple. Mettant, si pour un consultant permanent qui gagne 90 000 par année, qui veut se lancer en pigiste, c'est-à-dire en freelance, puis qui va gagner 150 000 par année. Ça va de quoi un petit peu d'un point de vue taxe, etc. Si on peut faire un petit exercice avec toi, Annedmas, ben, si tu es d'accord, hein, je ne sais pas si on peut le faire live, mais juste comme ça, un petit peu donner des chiffres, juste une petite
Ouais,
idée.
pas de problème. Ça a coupé légèrement au niveau de mon Internet, mais je sais que tu as dit 150 000 $ pour l'incorporer ou également pour l'employé.
Pour l'employé, c'est 90 000 par année, puis pour l'incorporer à 150 000 par année.
Parfait. Donc, quand on est un salarié, exemple, ton revenu, c'est 90 000. Exemple, c'est ton revenu brut. Techniquement, il va y avoir des déductions à la source et le paiement d'impôts. Et quand je regarde ma calculatrice d'impôts, en termes de ce qui va lui rester concrètement, ce serait environ 65 000 $, donc de revenus nets. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'il faut garder en tête que lorsque ton employeur te dit ton salaire brut, c'est 90 000, à la source, il vient prélever ton impôt. Donc, dans l'année, tu reçois ce qui correspond à 65 000 $ sur une base annuelle. Mais ça a déjà été prélevé. Alors qu'à l'inverse, si tu pars du principe que, OK, maintenant je suis incorporée, j'ai ma société par action et mon revenu, c'est 150 000 $ brut. Donc, toi, chaque mois, tu reçois ton montant et tu n'as pas eu de prélèvement à la source. Donc, sur le coup, ça peut sembler aussi comme étant énormément d'argent parce que tu reçois ton montant brut tout au long de l'année. Et par la suite, c'est là que tu vas venir déclarer après tes dépenses. Donc, si je répète de façon mieux formulée, tu génères ton montant brut et tu peux, en tant qu'entrepreneur, maintenant déclarer aussi des dépenses que tu ne peux pas forcément faire quand tu étais salarié. Les consultants n'ont pas tant de dépenses, peut-être Camille pourra nous donner des exemples par la suite, mais ils n'ont pas tant de dépenses à faire. Mais disons que si quelqu'un a besoin de matériel informatique ou a des formations ou achète des logiciels ou peu importe, ce sont des dépenses qui sont considérées comme des dépenses d'entreprise. Donc, si ton revenu brut était de 150 et que tu en as, exemple, pour 15 000, 20 000 de dépenses d'entreprise, ben alors tu vas venir payer ton impôt sur ce qu'il reste après. Donc, si c'est 150 moins 20, 130 000, ce sera ton revenu imposable. Et contrairement aux particuliers, le taux d'imposition, pardon, est fixe. Donc, c'est environ 20 % comme flat sur ce qui restait. Alors qu'en tant que salarié, ce sont une imposition qui est progressive. Donc, plus le consultant salarié fait d'argent, plus il paie d'impôts, alors que dans la compagnie, ce sera fixe. Mais comme on a dit, il y a deux niveaux. ta compagnie, elle a fait son argent, elle a ses dépenses, elle paie son impôt. Mais après, toi aussi, tu dois te payer. Et là, il faut décider qu'est-ce qui est la meilleure façon. Est-ce que tu veux être un salarié de ta propre compagnie? Le cas échéant, tout comme l'employeur, finalement, il y aura des déductions à la source, il y aura des cotisations à faire, donc ça vient ajouter certains frais. Et une fois que tu collectes cet argent, tu reviens un peu au même stade où c'est progressivement en fonction de ce que tu as perçu. Donc après, on n'ira pas dans les détails salaires ou dividendes parce que c'est un choix qui est personnel à chacun. Mais ce que je trouve bien avec l'incorporation, c'est que tu peux vraiment contrôler aussi combien tu te rémunères. Alors que quand tu es salarié et que ton salaire, c'est 90 000 brut, tu reçois ce que tu reçois. Même si peut-être que tu as un coût de la vie à 30 000 par année qui sait, puis que tu as trop d'argent, puis tu payes l'impôt dessus quand même. Donc, quand tu as ta compagnie, si tu décides que ça te coûte seulement 30 000 $ pour vivre, tu ne te payes que 30 000 et tu paieras cet impôt à titre personnel quand tu te paieras l'année prochaine, disons. Donc, tu as comme une façon de reporter un peu ton impôt personnel.
Ok, parfait. Ça, c'est un super bon point. Puis par la suite, l'argent qui, mettons que le consultant veut se payer un salaire annuel de 50 000 selon ses besoins, s'il estime que 50 000, ça suffit pour ses besoins, le reste de l'argent qu'il va garder dans l'entreprise, est-ce qu'il va payer des taxes dessus? Comment ça va, c'est-à-dire comment ça va fonctionner avec cet argent-là?
En fait, tu as deux options. Donc, tu avais le revenu brut. Si tu décides que tu te verses un salaire, exemple, de 50 000, c'est une des dépenses dont on parlait. Donc, ça rentre dans les dépenses comme ton matériel informatique ou autre. Et une fois que tu as payé ton impôt, ce qu'il reste, si tu payes une fois, donc ce qui reste là, ben, ce sont tes profits après impôt. Ça reste dans ton compte bancaire, ça reste dans la compagnie. L'année d'après, tu gagnes de nouveaux revenus, mais ce sur quoi tu as payé, c'est réglé. Comme c'est maintenant ton épargne.
OK, donc ça va rester dans l'épargne de l'entreprise.
Exactement. Ça reste dans ton compte bancaire, dans ta trésorerie, que tu peux ensuite épargner ou placer dans la
Est-ce
compagnie.
que Amine, tu es en phase avec ça? Parce que depuis tout à l'heure, tu es en train de dire oui. Je comprends que c'est bon, tu vas tout appliquer.
Oh ouais, mais un truc, c'est sûr qu'un aidant a plus d'expérience, mais un truc quand tu commences en tant que consultant que tu ne sais pas, c'est que justement tout cet argent-là ne t'appartient pas en fait. Parce que tu reçois le montant brut. Et t'es pas censé tout dépenser. Donc en gros, si tu reçois ton 150 000, t'es pas censé dépenser 150 000. Et faut en être conscient et il faut tout de suite commencer à budgétiser et séparer l'argent que dont tu as besoin pour vivre et l'argent qui va aller au gouvernement et combien d'argent tu vas laisser dans ta compagnie.
Ah, donc
Et
ça
même
prend un vrai self-control. Parce que sinon, si les gens dépensaient et qu'ils vont avoir 200 000 sur leur compte de compagnie, ils vont tout dépenser par la suite. Les taxes vont aller toquer à la porte.
Ah,
L'argent
exactement.
est où?
Et pire encore, c'est que non seulement cet argent ne t'appartient pas, mais tu dois payer tu dois le payer au gouvernement. Mais je pense que l'éducation financière fait que tu ne sais pas comment budgétiser la première, en tout cas la première année. La deuxième année, tu arrives à mieux comprendre comment gérer ça, là. Mais la première année, je pense que c'est tough pour les consultants.
Ça, c'est un super bon point.
Absolument.
C'est un super bon point parce que franchement, c'est vrai. La première année,
C'est
c'est toujours
tellement,
tricky.
c'est ambigu. Première année, c'est super ambigu. C'est vraiment un bon point parce qu'en fait, tu oublies que la TPS est vécue, ben, elle est là-dedans aussi, puis que tu as l'impôt à payer, puis tu te sens vraiment comme riche. Comme tu reçois ton montant brut à chaque mois, puis tu te sens comme le roi du monde. Et là, les gens augmentent leur style de vie en conséquence parce que ben, maintenant, j'ai plus d'argent. Et en plus, le temps que tu réalises que tu dois payer l'impôt, c'est tellement plus tard parce que tu fais déjà une année complète, puis après, tu as encore du temps pour payer. Et c'est après que finalement, tu te retrouves à payer peut-être avec de l'argent de ta seconde année parce que tu n'avais pas mis d'argent de côté. Donc, c'est vrai que c'est très ambigu, surtout que tu sais pas, tu ne réalises pas combien tu vas devoir remettre. Donc, c'est quelque chose.
Ok, donc l'éducation financière, c'est quand même un point super important à noter dans sa transition vers consultant pigiste ou freelance. Sinon, c'est un petit peu difficile.
Non,
Ouais.
mais ce que tu avais dit à l'aide-moi tout à l'heure sur le fait qu'on avait très peu de choses qu'on pouvait déclarer en tant que compagnie, ce qu'il faut comprendre, quand tu es consultant TI, tu travailles chez ton client. Donc, tu n'as pas besoin de bureau. Souvent, c'est eux qui te fournissent le laptop. C'est correct d'avoir ton propre laptop aussi, là, mais. Donc, ça réduit grandement les charges que tu pourrais avoir, que tu pourrais mettre sur ta compagnie. Donc,
Absolument.
il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent tout mettre sur la compagnie, là, mais au final, il n'y a pas tant de choses que ça.
Mais ça, je pense
C'est
que
vrai.
c'est aussi une autre nuance parce que les gens, quand ils pensent, j'ai reçu beaucoup de questions, puis les gens, quand ils pensent se lancer en freelance, dans leur tête, ça veut dire qu'ils vont avoir leur propre compagnie, qu'ils vont travailler toujours de chez eux, qu'ils auront besoin d'un bureau, etc. Parce que dans leur tête, ils vont devenir entrepreneurs et ça va être super compliqué. C'est quoi cette grosse aventure? Mais au final, voilà, de ton expérience, Amine, et puis plusieurs consultants, spécialement moi, je suis dans le domaine TI, donc les consultants TI que je rencontre tous les jours, ben, ça va être un petit peu la même chose, sauf que au lieu d'être placé par temps, mettons pour les consultants TI qui travaillent dans des compagnies de recrutement ou bien dans des grosses boîtes voilà, qui travaillent avec des contrats. Au lieu que c'est cette boîte qui les place, à ce moment-là, c'est eux qui placent eux-mêmes. C'est la seule différence, en fait. Puis, ils chargent le prix qu'ils ont envie de charger. Donc, ce n'est pas une grande différence. Puis aussi, leur bureau, etc., ça va être au niveau de leurs clients. Au niveau de l'entreprise où ils vont travailler genre au final. C'est ça, je pense que ça, c'est une bonne nuance à noter. Puis, il y a aussi un autre point, je pense, que j'ai envie de parler. Comment optimiser son argent? Parce que là, on a parlé que ça prend quand même une éducation financière. Comment gérer ses finances, etc., entre les taxes, les impôts, TPS, TVQ et tout. Mais on a dit que l'argent qui reste dans l'entreprise, ça va rester dans la trésorerie. Anedma, est-ce que toi, ton côté, tu conseilles les consultants avec qui tu travailles pour optimiser cet argent-là?
Oui, ben en fait, parce que comme on disait au début, typiquement, c'est rare que j'ai des consultants qui viennent au jour 1 pour s'incorporer. Donc, généralement, ce que j'ai comme profil de consultant, c'est qu'ils sont déjà incorporés depuis quelques années et ils ont accumulé cette épargne dont on parlait. Donc, ils se sont rémunérés ce dont ils avaient besoin. Puis maintenant, il leur reste 100 000, 200 000 dans la compagnie. Puis, ils aimeraient voir, en fait, comment investir cet argent ou comment faire pour. Exemple, ils veulent faire un investissement à titre personnel, mais cet argent est dans la compagnie. Donc, comment est-ce que tu fais pour le sortir de façon optimale pour faire ton achat? Donc, certains des profils qu'on a, c'est qu'ils vont venir restructurer leur entreprise de sorte à être en mesure de prendre cette épargne qu'ils avaient déjà. Et plutôt que de sortir cet argent à titre perso, ils vont plutôt créer une autre compagnie, comme une société de gestion. Donc, le but, c'est de pouvoir prendre cet argent, l'amener dans une autre compagnie. J'essaie de l'expliquer simplement parce que c'est un podcast aussi. Mais le but, c'est de créer une structure pour faire circuler ton argent dans ta structure plutôt que de te payer pour acheter. Donc, en gros, achète avec ta compagnie, investis avec elle, de sorte à éviter de te payer trop pour acheter, exemple, une propriété à titre personnel. Donc, lorsqu'exemple, ils veulent faire un investissement à plusieurs ou autres, mais ils vont créer une compagnie avec des partenaires et ils vont aller injecter de l'argent dans cette entreprise, pour exemple, acheter un bien. Donc, c'est certaines choses qu'on peut faire. Donc, ce qu'il faut garder en tête finalement, c'est que si on accumule un montant important dans sa compagnie, bien, on peut commencer à planifier comment est-ce qu'on veut peut-être prendre sa retraite éventuellement et comment est-ce que notre compagnie peut nous permettre d'atteindre l'objectif. Et à travers ça, c'est possible, d'investir.
Super. Ben écoutez, je pense qu'il nous reste 5 minutes pour voilà pour le temps de ce Zoom call. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous voulez ajouter. Moi, de mon côté, je crois que j'ai eu l'idée de faire cet épisode de comment se lancer en freelance, puis donner un petit peu les détails et avoir un avis d'une avocate fiscaliste, plus un retour d'expérience d'un consultant indépendant, parce que j'ai vu le besoin. Il y a beaucoup de monde. En fait, la plupart des gens, je pense qu'il y a beaucoup plus un problème au niveau de leur mindset, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils voient ça comme une grosse tâche, comme un projet qui est quand même assez gros, comme création d'entreprise et tout. Mais je voulais vraiment apporter leur attention à ce que, au point qui dit que c'est se lancer en freelance, c'est vraiment simple. Et je voulais genre comme vraiment montrer que c'est comme les étapes sont très simples, puis n'importe quelle personne peut le faire. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que vous voulez ajouter par rapport à tout ça.
Ben écoute, moi, je voulais te remercier pour l'invitation. Puis, c'était vraiment un sujet qui est important d'aborder parce que c'est vrai que ce n'est pas un projet qui est si immense que ça. Mais je pense que c'est important pour les gens de réaliser les opportunités qu'ils peuvent avoir d'améliorer leur qualité de vie en faisant cette transition. Puis, avec le témoignage d'Amine aussi, on peut voir que tu gagnes en flexibilité, tu gagnes en liberté, tu peux générer davantage d'argent. Donc, ça vaut la peine de considérer.
Écoute, merci beaucoup, Anedma. Ça m'a fait plaisir de vous avoir. Puis Amine aussi, un dernier mot.
Je dirais aux gens qui veulent se lancer de se lancer là. Il n'y a pas de raison d'attendre. Il n'y a pas de bon moment pour le faire. Et la plupart des gens peuvent déjà commencer à chercher leur premier mandat pendant qu'ils sont en poste permanent. Et il faut pas hésiter aussi à aller chercher de l'aide. So, pour démarrer là, que ce soit au niveau des agences de recrutement ou des gens comme Année de Main qui peuvent les aider sur leur fiscalité, là, faut le faire le plus tôt possible.
Donc, je vais finir un petit peu sur ce point. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes des consultants permanents, que vous avez besoin d'aide pour se lancer, vous pouvez aussi comme contacter les recruteurs. Vous pouvez me contacter moi, vu que je suis spécialisée dans le recrutement TI. Alors, ça m'a fait plaisir de vous parler, Anne Edma et Amine. Merci beaucoup
Merci.
d'être présents aujourd'hui. Puis, je vous vois très bientôt, peut-être.
Merci.
Bye.
Merci, à bientôt.
Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles au podcast sur votre application d'écoute. C'est ce qui nous permettra de continuer à partager toutes ces informations et connaissances gratuitement avec vous. Je vous encourage aussi à me suivre sur LinkedIn, Radia, Abdi, et sur Instagram, @kiprad. Toutes ces informations sont disponibles en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.